Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Salut à tous.
Et de Ben.
Bonjour tout le monde.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, on vous parlera de Iron Maiden, on enchaîne ensuite sur StarCraft Mass Recall, nous évoquerons également Super Mario Maker 2, nous parlerons de Warframe, Assassin's Creed Odyssey, Steam qui va changer son système de recommandation, et enfin, on terminera par la Nintendo Switch Lite, évidemment, la grosse annonce de cette semaine. Bon, messieurs, on va commencer. Je vous disais qu'on allait parler d'Iron Maiden, mais désolé, en fait, il faut plus dire Iron Maiden, il faut dire Iron Fury, parce que le copyright a encore gagné. Petit rappel sur cette histoire, c'est-à-dire que Iron Maiden, le groupe, a, disons, menacé d'un procès les développeurs d'Iron Maiden. Grâce au copyright, on n'a plus le droit de faire des clins d'œil, n'est-ce pas? Donc, Iron Maiden, pour éviter des problèmes en justice, a décidé de s'appeler Iron Fury et sortira le 15 août. Voilà! Merci, copyright!
Non, mais comme on avait dit auparavant, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Il y en a un qui est un jeu vidéo, puis l'autre un groupe de musique. Et là, moi, je pense que ce studio qui est quand même assez petit, ils ont pas envie de perdre de l'argent et des procédures qui vont aboutir à rien, et du coup ils ont préféré laisser...
On rappelle que c'est droit d'Irims, dans le genre on n'a pas d'argent, ça se pose là, quoi.
Voilà, donc ils ont préféré céder le nom plutôt que d'aller s'embrouiller dans une histoire comme ça qui n'a ni queue ni tête, quoi.
Ouais, bah de toute façon, quand tu as en face des gens qui ont sûrement beaucoup d'argent et des avocats très compétents,
oui,
voilà, je pense que
pas.
C'était, hélas, le choix raisonnable à faire. Même si toute cette histoire n'est pas très raisonnable. Mais bon, on va pas revenir là-dessus, On avait déjà eu l'occasion de s'étendre sur ce sujet la dernière fois. Bon, on va enchaîner, messieurs, sur StarCraft Mass Recall, un remake fait par des fans de StarCraft dans StarCraft 2. C'est un projet qui a plusieurs années. Il est désormais disponible en version 7.1. On est quasiment arrivé à la fin du développement de ce remake. Ils ont également repris les écrans de transition, vous savez, intermission du remaster de StarCraft 1er Juno. Et donc, ils ont resservi tout ça dans le moteur de StarCraft 2, avec des cinématiques faites avec le moteur de StarCraft 2, et ainsi de suite. Donc, écoutez, moi je vous incite à vous y intéresser, à regarder ce que ça donne, parce que ma foi, comme d'habitude avec le modding, bravo les gens, c'est un travail qui est assez impressionnant.
Et est-ce qu'il risque pas d'avoir des soucis de la part d'Activision après ça?
Je sais pas, honnêtement, le truc c'est que t'es obligé d'avoir StarCraft 2 pour pouvoir y jouer. C'est pas une version standalone. En général, les mods, ils ont ce genre d'histoire quand ils passent en standalone et que du coup, là, les éditeurs se réveillent. Parce que du coup, tu vas pas acheter un de leurs produits pour...
ouais, ça je comprends des fois pourquoi ça titille un peu les éditeurs et tout. Mais là, parce que je me dis que, ok, Blizzard, eux, ils s'en foutent, ils laissent le truc se faire parce que ça fait plaisir aux fans. Mais est-ce que si on voit que le truc, il prend un petit peu, et par exemple, tu vois, le mode est plus installé que les gens qui ont téléchargé le remaster du premier StarCraft, est-ce qu'ils risquent pas d'avoir des problèmes, justement, via Activision?
Honnêtement, je pense qu'ils s'en foutent tellement de StarCraft que... non, mais très très honnêtement, je pense que Activision n'en a rien à secouer de StarCraft. C'est un RTS de niche qui n'intéresse, hélas, à peu près personne. Je sens que je vais outrer des fans de StarCraft, mais c'est vrai, quoi. C'est peut-être une licence culte pour nous. Mais aujourd'hui, pour une boîte comme Activision qui ne voit que les dollars, je veux dire, c'est rien. Ça n'existe pas pour eux. Honnêtement, je pense pas qu'ils auront trop d'histoire là-dessus, quoi. On va enchaîner, messieurs, sur Super Mario Maker 2, qui est déjà jouable sur émulateur. Eh oui. Alors, c'est pas non plus jouable dans le sens... Attention, vous pouvez y jouer comme sur Switch, Mais ça tourne bien, quoi, ça tourne correctement. Bon, il y a des ralentissements, etc. Mais, pour une console plutôt récente, je trouve que Nintendo devrait commencer à s'inquiéter, quoi.
Ouais, mais ça c'est le problème avec Nintendo ces dernières années. Il y a la Wii qui a été hackée rapidement, la Wii U encore plus. Enfin, elle a quand même attendu la fin de sa vie, mais comme sa vie a été courte, on a l'impression que c'était rapide, quoi. Et la Switch là qui cartonne en plus en ce moment, si elle se fait hacker, peut-être que les ventes de Switch du coup vont augmenter. Mais je pense pas que ça va se
déjà hacker la Switch.
Ouais, mais les jeux ne tournent pas à 100%, tu vois, comme par exemple c'était le cas de la DS où t'avais tous les cartouches où il y avait plein de jeux dedans et qui se vendaient en boutique là, officielle.
C'est un peu plus compliqué, mais ça se hack quand même assez facilement. T'achètes un truc à 50 balles sur le net et tu peux le hacker. Hein.
On sent que ouais. Ben est très renseigné sur la chose, n'est-ce pas?
Non, mais oui,
je dis rien.
Alors, non, parce que, enfin, je ne l'ai pas fait sur ma Switch, mais par contre, je m'intéresse toujours à ce côté technique parce que je trouve ça ouf, ce que les mecs arrivent à trouver pour hacker différentes consoles. Alors, généralement, on sait que, voilà, les consoles Nintendo, elles se hackent assez facilement, mais c'est toujours intéressant de voir par quelles failles ils sont passés. Enfin, moi, c'est des choses que j'aime bien, donc, ouais.
Si je me souviens bien, c'est par rapport au Joy-Con, je crois.
Exactement. En fait, tu t'enlèves le Joy-Con droit, et en fait, tu fais une espèce de court-circuit. Alors, maintenant, tu te vends une espèce de petit dongle que tu mets à la place. Ça fait un court-circuit, tu peux booter en fait sur un autre support, quoi. C'est des génies.
Ah non, mais rien que le système de hacking de console là, c'est on atteint un niveau jamais vu encore, quoi. Après moi, ce qui me ferait un petit peu peur sur le long terme, c'est que les jeux Nintendo, en fait, si la console est hackée en masse, ne se vendent plus. Et c'est ça qui posera un problème, mais pour l'instant, dans l'immédiat, je vois pas trop où est le souci.
Honnêtement, les jeux Nintendo, ils se vendaient sur DS, et Dieu sait que la DS...
C'est ce que j'allais te dire, ouais, avec le succès qu'il y a eu sur la DS, 3DS, bon, je me fais pas trop de soucis, quoi.
Quand je dis les jeux Nintendo, c'est les jeux qui sortent sur la Switch, mais c'est sûr que ça va plus impacter les petits développeurs, parce que les gens vont dire, ouais, je vais tester le jeu en émulation, par exemple.
C'est vrai que pour tous les jeux indés qui sortent sur Switch, ça peut être un problème, ouais.
Mais après, comme on dit souvent, c'est, voilà, quand tu télécharges un jeu en émulation, ça veut pas dire forcément que tu vas l'acheter derrière. Et ça peut être aussi assez intéressant s'il y a des homebrew, c'est-à-dire des jeux faits par la communauté, mais qui ne vient pas entraver d'autres jeux qui sont créés par les éditeurs, les développeurs, on va dire officiels, quoi.
Puis honnêtement, je pense qu'il y a quand même une chose qui a changé depuis, c'est que par rapport aux jeux indés, par exemple, je pense que les gens, plutôt que de se faire chier à acheter un dongle pour pirater ta Switch et ensuite... surtout, je suis même pas sûr qu'on puisse faire tourner les jeux officiels hein, par cette méthode. Je vous avoue que je me suis pas plus renseigné.
Si, tu peux.
Tu peux,
ouais,
d'accord.
Tu peux.
Mais je me dis que honnêtement, déjà, t'as pas le temps de jouer en fait. Qu'est-ce que tu vas aller te faire chier à pirater ta console, alors que honnêtement, c'est tellement facile d'aller sur le store de la Switch, télécharger ton jeu, tu l'as téléchargé, t'es tranquille, t'y joues quoi. Enfin, c'est. Il y a aussi une facilité d'utilisation, tu vois, que tu dis. Est-ce que je vais prendre le risque de bidouiller ma console pour jouer à des jeux gratos que ça va être chiant d'installer?
Non, clairement aujourd'hui, ouais, c'est je te rejoins sur ce point, c'est que avec les stores online, en fait, si t'as envie d'un jeu, t'as pas à te dire comme avant, ah putain, il faut que j'aille au magasin, machin, ça se trouve je vais aller sur internet dans 10 minutes, je l'ai. Voilà, c'est comme tous les systèmes de films à la demande, etc., de plateformes Netflix, etc. C'est la facilité et du coup, aujourd'hui, tu pirates beaucoup moins parce que t'as accès à un catalogue aussi facilement que si tu piratais. Et notamment pour les jeux indés, c'est généralement des jeux qui sont pas très chers. Donc tu vas sur le store, tu peux trouver un jeu super sympa à 10-15 euros. Et voilà, c'est pas comme avant où tu disais, putain, si je vais en magasin, je vais lâcher 50-60 balles pour un jeu, je vais peut-être pas en être content, etc. Donc voilà.
Et même, tu te dis derrière, faut aller trouver des ISO. Les ISO, ouais, ça se trouve, il y a un virus dedans, parce que ça tombe sur BitTorrent et tu sais pas, du coup.
Ouais,
tu
sais pas vraiment d'où ça
si
vient.
Si ton
ouais.
ISO, il est pas virulé. Enfin, honnêtement, pourquoi aller se faire chier? Bon, à la ligne, quelqu'un qui a pas de sous, bon, je peux le comprendre, tu vois. Fait,
non, mais il y en a toujours qui le feront, voilà. De toute façon, mais.
Toujours qu'ils le feront, mais je pense que par rapport à la facilité d'utilisation que tu as maintenant, ça va être très meilleur, quoi.
Voilà. Mais surtout que tu vas toujours conserver ta garantie de console, parce que là, si tu trafiques ta console, si tu ramènes ça chez Nintendo, ils vont dire non, mais monsieur, on va pas vous réparer la console parce que voilà, vous avez bidouillé, vous avez pas le droit de le faire.
Alors, on a un peu dérivé, mais c'est vrai que les émulateurs, par contre, je pense que c'est un vrai souci. Parce que t'as des gars comme moi qui voient les émulateurs, ils disent attends.
Ouais, les émulateurs c'est pour ceux qui ont pas la console en fait. Ouais,
ouais c'est ça. Tu vois, t'as une console à 300 balles d'un côté, un émulateur qui tourne sur PC de l'autre. Bon, moi, ils aient pas beaucoup de scrupules, ça va pas hésiter longtemps quoi. Bon, messieurs, on va enchaîner sur un jeu que j'aime d'amour, même si il m'a beaucoup déçu. Hein, c'est Warframe. Même s'ils ont fait des saloperies au niveau de l'équilibrage des quêtes journalières, etc., où ils essaient de te faire revenir comme si t'allais à ton taf, ils me donnent envie quand même, hein, ces salauds. Parce que ils en ont dévoilé un peu plus sur l'extension Empyrène. C'est une extension dont on a entendu parler il y a déjà pas mal de temps. On connaît les grandes lignes, mais ils en ont montré un peu plus. Et franchement, qu'est-ce que je vous dis, ça me fait envie, quoi. Vous connaissez Faster Than Light? Faster Than Light, ce petit jeu où vous jouez un équipage dans l'espace, où ils doivent combattre des vaisseaux, il y a des événements qui se passent, genre des éruptions solaires qui font que les équipements du vaisseau sont désactivés, mais ceux de l'adversaire aussi, et vous allez envoyer votre équipage aborder le vaisseau adverse, le vaisseau adverse va aussi contre-attaquer, etc. Enfin bref, imaginez Faster Than Light, sauf que là, en fait, vous jouez l'équipage. Voilà. Et là, tout de suite, quand je dis ça, moi, ça me... Forcément, mais j'ai des étoiles dans les yeux. Surtout que derrière, il prévoit d'autres features. Par exemple, le fait que pendant votre combat avec votre team contre le vaisseau ennemi, imaginons, par exemple, il va falloir que vous envoyiez un signal sur Terre pour dire à une autre team de Théno, SOS, SOS, désactiver ce bouclier. Et du coup, t'as une mission dynamique qui va se mettre en place dans le monde où une autre team de joueurs va pouvoir aider cette team qui est dans l'espace en désactivant une source d'énergie qui se trouve sur Terre ou ce genre de choses. Mais putain, mais c'est génial. Tu veux que je te dise, ça me met des étoiles dans les yeux. Là, j'ai qu'une envie, c'est d'y jouer. Surtout qu'en plus, bon, il va y avoir tout le côté pimp mon vaisseau, hein, évidemment. Parce que qui dit nouveau vaisseau mis en place dans le jeu, dit pimpage du vaisseau pour pouvoir se la péter un peu, hein, faut pas déconner non plus. On va pouvoir aussi pimper son hangar, etc. Enfin bref, voilà. Vous êtes chiant Warframe. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Vous êtes chiant, vous êtes casse-couilles. Votre système là actuel de quête journalière, il me casse les couilles. Mais par contre, quand je vois ça, ça me donne envie. Donc si ça se trouve à un moment donné, je vais bien être obligé d'y retourner, quoi. Et ça me fait chier. J'ai pas le temps. Ça me fait chier.
Oui, je vais casser ton enthousiasme pour te dire que tu n'as pas le temps déjà pour le faire. Déjà, tu dois finir Metro Exodus, les DLC de Final Fantasy XIV Online, donc.
Ouais, non, mais attends, c'est pas pour tout de suite, hein, parce qu'il y a pas encore de date d'annonce de sortie, etc. On n'y est pas encore. Hein. Ça se trouve, j'aurai peut-être un peu de temps à ce moment-là, et c'est ça mon drame. Bon, messieurs, on va aborder le point qui va, je pense, poser quelques petits soucis. Ben, on a un petit contentieux avec Ubisoft cette semaine. Ils nous prennent un peu pour des cons. Mais bon, je te laisse déjà présenter l'affaire et ensuite on va pouvoir passer au procès, si tu veux. Merci.
Donc Ubisoft, il y a quelques temps, a eu une super idée pour Assassin's Creed Odyssey. C'était de sortir ce qu'ils ont appelé le Story Creator Mode. En fait, c'est un mode qui permet aux joueurs de créer des espèces de petits niveaux, des quêtes, etc. Donc super. Bah, qu'ont fait les joueurs? Ils se sont mis dessus et puis ils ont créé des quêtes permettant de faire vachement d'XP, vachement d'argent plus rapidement. Et Ubisoft, en tout Ubisoft qu'il est, a dénoncé cette pratique, disant que ça pouvait nuire à la créativité du jeu, que ça faisait que les joueurs passaient à côté des quêtes principales, etc. Que du
et en
coup,
plus
le jeu...
ça cachait les modes, enfin les créations des autres joueurs, parce voilà. Que du coup évidemment les créations les plus populaires c'était les quêtes.
C'était celles qui arrangeaient les joueurs.
Voilà.
Et voilà, tout ça dans un jeu qui est quand même solo. C'est pas comme s'il y avait un multi qui, là, ça pouvait être considéré comme de la triche en se disant tu faisais de l'XP beaucoup plus rapidement et du coup,
ouais,
t'étais meilleur que les autres,
etc. Ouais,
ça nuirait
aux autres joueurs, quoi, tu vois. C'est...
Exactement.
Tout simplement.
N'allez pas trop loin, Ben. J'ai des éléments très importants dans mon dossier pour éviter les propos d'Ubisoft. Hein.
Donc, du coup, dis-moi, Ben, ils vont faire quoi, Ubisoft, pour empêcher ces pratiques dangereuses
Mais ils vont prendre des sanctions.
Alors, c'est-à-dire
déjà, ils vont empêcher, entre guillemets, ces quêtes de rapporter autant d'expérience et autant d'argent. Donc, en gros, bah, ça va restreindre la communauté en empêchant de faire de l'XP et de l'argent dans toutes ces quêtes.
Ok. Il y a d'autres choses qui vont être ajoutées aussi
Non, je crois pas, si.
Bah, y a
j'ai
aussi,
raté une partie.
Donc
le
déjà,
fait que...
il va y avoir un système de dénonciation. Hein, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les joueurs pourront faire un report sur des quêtes qui sont pas considérées conformes. Ça va permettre de faire le tri, n'est-ce pas?
Oh mon Dieu, j'ai gagné de l'XP, je vous dénonce.
Évidemment, ils vont mettre à jour leurs termes d'utilisation pour interdire que on puisse faire ce type de quête. Et là où ça commence à me poser problème, c'est qu'ils disent qu'ils sanctionneront ceux qui utiliseront cet outil pour faire ce genre de quête. Et ça veut dire quoi sanctionner en fait?
Bah tu peux plus jouer à ton jeu.
Ah ouais, non mais c'est ça qui me pose problème en fait, c'est que ils disent on va sanctionner. Ok, vous allez faire quoi? Peut-être empêcher d'utiliser l'outil, d'accord, mais j'ai payé pour le jeu, pourquoi j'aurais pas le droit de le faire? C'est quoi une sanction? Moi j'aime bien quand on est précis, tu vois. C'est quoi une sanction Ubisoft?
Bah surtout que l'outil maintenant il est sûrement implémenté dans le jeu, donc comment tu peux mettre en place un système qui t'empêche d'utiliser cet outil, mais qui te permet de continuer au jeu que t'as, de jouer au jeu que t'as acheté, ça paraît compliqué comme ça.
Bon, ça plus le fait que je pense que tu seras d'accord avec moi, On est d'accord, l'excuse officielle, c'est
oui,
oui, ça nuit aux quêtes qui sont créatives, qui apportent quelque chose de vraiment positif au jeu. Mais la vraie raison, c'est quoi? C'est que leur putain de jeu, là, c'est un jeu à grind, hein, qu'ils ont mis du grind pour vendre des trucs, et que ça les fait chier que les joueurs contournent ce grind en mettant des quêtes qui rapportent de l'XP gratos, quoi. Je pense qu'on est d'accord à peu près, TH?
Ouais, bah, je suis entièrement d'accord. Ce qui les fait chier, en fait, dans le fait qu'on peut gagner de l'XP facilement, c'est que dans le jeu, Ubisoft a une boutique interne qui te propose de gagner des ressources en les achetant, en fait. Ça s'appelle Time Saver, en fait, donc ce qui te permet de gagner du temps. Ça va de 2 à peut-être 10 euros, enfin, ça coûte quand même une certaine somme. Donc déjà, on se dit, ils ont pas envie que les gens farment pour gagner encore plus de temps, parce que ça fait partie de leurs objectifs. Et on en parlait un petit peu la semaine dernière, quand on évoquait que les jeux avec, comment ça s'appelle, des microtransactions intérieures, casser le game design. Et bah moi, c'est un peu ce qui s'est passé avec cet Assassin's Creed.
On l'avait critiqué durant le test, ça. Hein,
bien sûr.
Dire, on a tous dit qu'il y avait quand même un petit souci sur le design de ce jeu, qui clairement faisait traîner la sauce exprès pour te vendre des trucs, quoi.
Bah oui, parce que le problème, c'est que Assassin's Creed Odyssey, moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Hein, si vous écoutez le test et tout, il y a pas de souci par rapport à ça. Mais ce qu'on avait critiqué, c'était le fait que Assassin's Creed Odyssey est un jeu solo, mais qui est vendu comme un jeu game of the service. Un jeu qui est fait pour durer sur le long terme, alors que c'est un jeu avec un début, une fin. Et eux, ils essayent de faire ça comme si c'était un simili MMO, sauf que t'es tout seul dans ta partie, donc déjà ça n'a pas d'intérêt. En plus de ça, ils disent oui, les quêtes ne sont pas intéressantes. Mais je suis désolé, moi quand j'ai joué au jeu, j'avais quand même des quêtes où j'allais parler à un villageois qui répétait 5 fois la même quête quand tu allais le voir. Tu sais, c'était juste le skin du PNJ qui changeait, mais c'était la même voix qui venait, qui me demandait toujours de faire la même chose, c'est-à-dire d'aller tuer 5 putains de loups et de leur ramener la peau. En niveau intrigue de quête, j'ai connu mieux dans les jeux vidéo. Et ça, c'était des quêtes, genre tu faisais ça, mais les loups, ils étaient à 200 mètres. Donc tu faisais 200 mètres, t'allais buter les loups, tu revenais, hop, tu récupérais ton argent et ton expérience. Et c'était fait. Donc, moi, je trouve que c'est un peu du foutage de gueule de la part d'Ubisoft. C'est juste qu'ils ne veulent pas te donner la vraie raison. Et je suis désolé, le jeu te demande d'avoir beaucoup d'expérience. Donc, moi, je suis un joueur qui veut jouer à Assassin's Creed Odyssey aujourd'hui. Je trouve ce moyen de le faire, mais bien sûr que je vais y aller. Et après, c'est pas moi, Ubisoft, qui faut fonctionner. C'est plutôt vous. Au lieu d'avoir pensé à un outil intelligent. Par exemple, je sais pas, vous voulez pas que les gens farment? D'accord. Bah, dans ce cas-là, pourquoi ne pas mettre une durée limitée de quête? Par exemple, une quête minimum ne peut pas se résoudre en 5 minutes. Voilà. Déjà, avoir des trucs,
non,
des
mais
astuces comme
ATH,
ça.
En plus, moi, je suis désolé. Enfin, pour moi, c'est même pas le sujet, quoi. Pour moi, le sujet, c'est que, à un moment donné, est-ce que ça vous interroge pas quand des joueurs trouvent le farm dans votre jeu tellement relou qu'ils décident d'aller créer des quêtes pour skipper ce farm-là, en fait, tu vois. Est-ce que, en tant que designer de jeux vidéo, ça vous interroge pas ce que vous avez fait sur ce jeu, quoi? Au lieu de se dire, alors attendez, si les joueurs font en masse ça, c'est peut-être qu'on a foiré quelque chose, tu vois. Franchement, je serais créateur de jeux vidéo, je me dirais, mais j'ai dû louper un truc quelque part, là. Je leur mets à disposition un outil pour créer des histoires, et ils font des quêtes à la place pour skipper le contenu que moi je me suis fait chier à mettre dans le jeu, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans mon jeu, quoi?
Ouais, mais même, tu vois, je trouve que Ubisoft, ils sont dans la sanction. Alors qu'ils devraient être plutôt dans le fait que, justement, de corriger ces défauts-là en faisant une mise à jour, en disant, voilà, on s'est un petit peu trompé sur l'outil de création, vous avez contourné le système, c'est très bien. On veut vraiment des gens qui soient créatifs. Et pourquoi pas récompenser les gens, justement, qui créent du contenu intéressant. C'est-à-dire que les contenus qui remontent avec des bonnes étoiles, avec des quêtes qui sont plus travaillées que les autres, et qui sont vraiment remontés par la communauté, je sais pas, moi, en faisant des concours, par exemple, chaque semaine, d'élire les meilleures quêtes qui ont été intéressantes et récompenser les créateurs vis-à-vis de ça.
Oui, mettre en avant les quêtes qui vont dans le sens que vous voulez, à la limite, quoi. Mais aller sanctionner les gens pour ça, mais en plus des gens qui ont payé pour votre jeu, quoi. Mais vous délirez complètement, là, les mecs.
Ouais, mais, et puis, comme tu l'as dit, après, voilà, moi, le problème avec cet Assassin's Creed aussi, Odyssey, on en avait déjà parlé aussi pour Red Dead, c'est que le jeu est trop long. C'est-à-dire que le jeu, t'as l'impression d'être dans un MMO. Non, même pas dans un MMO, parce que dans un MMO, tu ramasses pas tant d'équipements que ça, finalement. Plutôt dans un hack and slash.
Ouais.
Et ça, bah, ça pose un problème, parce que c'est censé être un RPG. Dans Origin, je trouve que le curseur, ils étaient pas allés aussi loin. Il y avait des quêtes qui étaient là pour allonger la durée de vie, mais c'était pas aussi loin qu'Odyssée. Et je suis désolé, moi, quand pour finir le jeu, tu dois être au niveau 50, et d'avoir fait plein de trucs qui sont pas très intéressants en plein milieu, ça gâche un petit peu l'expérience pour moi de cet assassin, quoi.
Bon, messieurs, on va enchaîner sur Steam, qui a mis en place un nouvel onglet qui s'appelle Steam Labs. C'est un onglet où Steam va expérimenter des nouvelles features. C'est des features qui sont en test et qui sont peut-être un jour implémentées dans Steam. Il y en a une qui a particulièrement retenu mon attention et je suis persuadé qu'elle sera implémentée un jour. c'est le machine learning pour faire des recommandations aux joueurs. Alors comment ça marche? Bah, il se trouve que Steam, ils ont de la chance, ils ont une base de plusieurs millions d'utilisateurs, et du coup ils se sont dit, bah écoutez, on va utiliser le machine learning pour proposer aux joueurs des recommandations plus adaptées. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir le système de recommandations actuel qui est un peu naze, avec des tags, etc., où tu te retrouves des fois avec des suggestions, mais tu lèves les yeux au ciel, tu vois. Ils vont observer les comportements des joueurs, qu'est-ce qu'ils ont acheté, etc., pour faire des recommandations adaptées en fonction de la manière dont vous jouez au jeu. Et pour avoir testé la feature, il y a moyen de faire le test, hein, vous allez sur l'onglet Steam Labs, et vous regardez ce que Steam vous propose. Bah, écoutez, j'étais prêt à défoncer le truc, mais en vrai, ça marche, quoi. C'est beaucoup plus pertinent que ce qu'il y a actuellement, quoi. Je trouve ça assez impressionnant. Maintenant, il y a un truc qui me fait peur, c'est que avec toutes ces données là, est-ce qu'ils vont faire autre chose avec ?
Ouais, ben moi en fait, ça m'étonne déjà qu'ils s'y mettent que maintenant. Alors, je pensais honnêtement que c'était déjà ce genre de système qu'il y avait en place en termes de recommandations.
Honnêtement, quand tu vois comment ça marche actuellement.
Ouais, ben ça. Mais voilà, ça aurait pu ne pas bien marcher, mais que ça soit déjà en place clairement. Ouais. Mais oui, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui s'appuient sur ce. Alors, ce machine learning, c'est un mot fourre-tout un petit peu, mais clairement, voilà, c'est de l'intelligence en étudiant les comportements des joueurs, de ce qu'il va faire, des pages qu'il va aller voir, des jeux qu'il a dans son catalogue, etc.
Bah, en gros, ce que fait Google avec YouTube, quoi. Tout
oui, voilà, par exemple, il y a déjà plein de systèmes comme ça. C'est pour ça que c'est étonnant que ça soit pas déjà utilisé. Alors, j'imagine, c'est, ils l'ont appelé, avant, ça appelait pas machine learning chez eux, mais de toute façon, c'était déjà en partie un système comme ça qui était en place. Mais c'est quand même quelque chose qui est intéressant si tu dis, toi, que ça fonctionne bien, parce qu'en effet, aujourd'hui, les recommandations, c'était pas la folie. J'irai l'essayer pour voir si moi, ça me recommande des choses qui sont cohérentes avec les jeux que j'ai, avec ma façon de jouer, etc. Mais c'est vrai que c'est plutôt intéressant de voir ces petits systèmes parce que bon, on sait que le catalogue Steam, il est de plus en plus gros. Et pour retrouver des jeux moins connus, ou etc., faut être soit un joueur avisé et savoir ce que tu cherches un peu plus particulièrement et pas hésiter à aller fouiller, ou alors tu tombes que sur les gros jeux et dans ce cas-là, tu vois 10% du catalogue Steam. Donc après, à voir comment les recommandations sont faites, mais du coup, c'est quelque chose qui pourrait plaire aussi aux plus petits développeurs qui pourraient se retrouver en recommandation de plusieurs joueurs parce que c'est le style de jeu, quoi.
Bah, surtout qu'en plus, il y a des options de trucs que je trouve vachement intéressantes. Par exemple, tu peux trier les jeux en fonction du fait qu'ils soient plutôt populaires ou de niche.
Ah ouais, ouais.
Et tu peux aussi les trier en fonction du fait qu'ils soient vieux ou récents.
D'accord, donc toi, tu peux ajouter des sortes de filtres en plus de ce que lui te ressort, quoi.
Exactement. Donc moi, je trouve ça vachement intéressant parce que, par exemple, moi, quand j'ai commencé, je faisais « oui, fin... » les jeux ultra connus, si tu veux, merci Steam, mais j'ai pas besoin de toi, entre guillemets, quoi. Voilà.
Oui,
quoi.
Bah,
si
oui,
c'est
voilà.
Pour me recommander Monster Hunter World, si tu veux, oui, merci.
Bah, c'est voilà. Ça, généralement, les jeux mis en avant, t'as pas vraiment besoin de, voilà, de Steam pour savoir ce que c'est, quoi.
Et du coup, quand j'ai mis le potard sur plutôt les jeux niches, là, j'ai vu des jeux. Déjà, il y en a que je connaissais, parce qu'ils m'avaient attiré de l'œil et que, vous savez, moi, je suis du genre à fouiller, donc forcément, je repère plus facilement que certaines personnes les jeux de niche. Donc déjà, il m'a suggéré des jeux que j'avais repérés en faisant des recherches à la main. Mais en plus, il m'a suggéré des jeux que je ne connaissais pas. Et quand j'ai regardé un peu, je me suis renseigné. Effectivement, ça pourrait m'intéresser, quoi. Et du coup, ben, franchement, assez impressionné. Voilà.
Mais ça, c'est un problème que il y a que sur Steam, je pense, en fait. Parce que Steam... c'est un peu le supermarché, même l'hypermarché de tous les jeux vidéo, qu'ils soient gros ou indépendants. Et nous, en fait, sur console, on ne connaît pas ce problème. Parce que il y a déjà un pré-marchage qui est fait par les gens qui jouent sur PC. Et du
bah,
coup, si
surtout,
vous voulez,
en plus, sur console, vous avez le table rase qui est fait à chaque nouvelle génération, où il faut re-remplir la librairie à chaque fois. Donc du coup, on remet les compteurs à zéro à chaque fois. Alors que sur PC, bah non. Les jeux qui sont sortis il y a 10 ans, ils sont toujours là, quoi.
Ouais, mais il y a ça. Et puis aussi le fait que sur Steam, je sais plus, il y a une année, il y a eu plus de 6000 jeux qui étaient sortis. Mmh. Voilà, 6000 jeux, moi, je trouve que quand même, ça fait un petit peu beaucoup. Tu sais plus où donner la tête si tu veux chercher. Tu peux trouver du bon, du moins bon. Et je suis sûr que dans tous les jeux qui sont sortis, il y a plein de jeux qui ont été récompensés, qui ont obtenu des prix. Mais combien de jeux qui étaient intéressants, qui mériteraient le coup d'œil, n'ont pas retenu l'attention parce que justement, ils ont été noyés dans la masse. Et ça, je pense que c'est un problème que Steam, il y a que lui qui peut l'avoir sur le marché, parce que même des sites comme GOG ou même l'Epic Game Store et tout ça, ils sont trop récents ou bien n'ont pas le même catalogue aussi fourni que Steam. Et je pense que ça peut être quelque chose d'assez intéressant, en fait. Si toi aussi, tu me dis que tu as vu des jeux que tu ne connaissais pas, mais finalement qui t'ont tapé dans l'œil, bah ça peut être quelque chose, parce que ça voudrait dire que vraiment l'affinage est bien fait, tu vois. C'est une bonne chose.
C'est ça.
Mais après, le mauvais côté de la chose, c'est comme tu l'as dit, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces données, quoi? Comment ils peuvent savoir que ce jeu-là, il va t'intéresser, tu vois? Et c'est ça qui... ça, c'est le truc... Après, peut-être que nous, on voit un peu le mal
après,
partout.
Après, qu'ils le sachent, moi, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est est-ce que, par exemple, ils vont le revendre, je sais pas, à tel ou tel éditeur, ou... Qu'est-ce qu'ils font de mes données perso, en fait? Alors, si c'est anonymisé, à la limite, why not? Mais s'il y a mon nom écrit en bas de la ligne, là, ça commence à me poser un souci, tu vois.
Mais après ça c'est c'est le problème avec tout ce qui est moderne quoi, c'est-à-dire que maintenant tu signes des contrats avec des entreprises, personne n'a jamais lu les contrats parce qu'ils sont trop longs et qu'on n'a pas que ça à foutre, mais au final si tu joues sur Microsoft c'est pareil, Nintendo pareil, enfin tout le monde fait pareil, donc mis à part de prendre une console rétro gaming et de déconnecter du reste de la société, mais c'est-à-dire que les nouveaux jeux tu peux dire au revoir, t'as pas 36 façons de continuer à jouer quoi.
Et ce que j'ai peur aussi, c'est que on se retrouve avec certains phénomènes qu'on peut voir sur YouTube, par exemple, sous prétexte que t'as joué à tel ou tel jeu, tu vois, on va t'enfermer dans un certain style de jeu. Et du coup, t'auras peut-être plus l'ouverture d'esprit que tu pouvais avoir d'avant. Bon, après, l'ancienne méthode de recherche reste toujours disponible, donc tu peux toujours trifouiller, c'est ce que je ferai quoi qu'il arrive. Ça peut être un outil supplémentaire, mais j'ai peur que ça incite certains comportements de joueurs, entre guillemets, à toujours faire la même chose, quoi, si tu veux. Voilà. Bon. Messieurs, on va enchaîner sur le gros morceau de la semaine. Hein? Ben?
Oui.
Est-ce que tu peux nous parler de la Nintendo Switch Lite, s'il te plaît?
Eh oui. Donc, on l'attendait quand même depuis un moment. Ça fait 2 ans que ça doit être en rumeur, quasiment. Nintendo a enfin annoncé une Switch Lite. Donc on va la décrire un petit peu pour voir les différences avec la Switch actuelle. Donc pour le coup, c'est une console 100% portable, c'est-à-dire que les Joy-Con ne sont pas amovibles. Donc c'est comme une Switch actuelle en mode portable, vraiment, vous avez les Joy-Con sur les deux côtés, mais vous ne pouvez pas les enlever. L'écran est un peu plus petit, donc ça passe de 15,7 pouces à 14. Honnêtement, la différence n'est pas énorme, et je pense que du coup, comme c'est du 100% portable, c'est pas incohérent qu'ils aient fait ça.
Ouais, mais enfin, on va en rediscuter après. Mais...
Ouais, on va rediscuter, ça a des bons et des mauvais côtés. Elle est plus légère, vraiment, c'est tout ce qui est fait pour être portable, elle va avoir un petit peu plus d'autonomie. Ils annoncent une demi-heure, moi ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que, ok, l'écran est plus petit, donc tu gagnes un peu sur ça, mais ça veut dire que la console... elle va être moins puissante si elle consomme moins, et c'est ça que je, là qu'ils disent pas du tout et que j'ai du mal à comprendre un petit peu. Ensuite, ce qui change forcément, c'est son prix. Elle passe à 200€ prix à la sortie, alors que la Switch est encore à plus de 300€ aujourd'hui, parce qu'on sait que Nintendo, entre ses jeux et ses consoles, ça baisse rarement de prix. Faut pas rêver, Zelda, vous le payez toujours au prix fort, alors que c'est le premier jeu qui est sorti sur la Switch. Enfin bon, voilà.
Il y a un point que tu as oublié, par contre, c'est les vibrations.
Ouais, voilà.
Alors, on sait pas trop, en fait. C'est-à-dire que... moi, tout ce que j'ai eu sur tous les sites que j'ai pu aller regarder, il y a marqué qu'il n'y a plus de vibration HD. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de vibration tout court, ou est-ce que ça veut dire que c'est juste qu'on aura des vibrations standards au lieu des fameuses vibrations qui, paraît-il, sont fabuleuses sur la Switch? Moi, j'en sais rien, j'y ai pas touché. Est-ce que c'est pas du tout de vibration, ou un peu? On sait pas. Voilà. Moi, je pars du principe que si on me dit pas de vibration, c'est qu'il n'y a pas de vibration. Ce qui serait logique parce que c'est une console portable qui est fermée et donc je vois pas où ils vont caser le Rumble Pack en fait, si tu veux quoi. Donc voilà.
Oui, non, c'est le coût de la vibration, il faut attendre de voir comment ils ont géré ça, mais je te rejoins plutôt dans le sens où je pense que vibration HD en fait, c'est le nom qu'ils ont donné eux à leur système de vibration, et quand ils disent qu'il n'y aura pas de vibration HD, c'est qu'il y aura pas de vibration du tout. Ouais. Je le vois aussi comme ça, ouais.
Bon, bah je voulais poser une question simple, Ben, le possesseur de Switch, il en pense quoi pour le moment?
Bon, il n'a presque aucun intérêt pour moi aujourd'hui, hein. Enfin, en fait, aujourd'hui, si tu as une Switch, aucun intérêt de prendre ça, forcément, parce que tu peux déjà utiliser la tienne en mode portable. Le seul intérêt que j'y vois, c'est pour, bah, clairement, le remplaçant de la 3DS, en fait. Pour les gens qui veulent quelque chose de 100% portable, qui est un petit peu moins cher, donc, parce que bon, une Switch, c'est quand même 350€ sans jeu, avec juste 2 manettes, donc si tu veux y jouer à plusieurs, enfin, c'est déjà un ticket qui te revient à 400-450€ rapidement, donc, pour une console, entre guillemets, d'enfants, comme ça a toujours été un peu le cas avec les consoles Nintendo, c'est un ticket qui est quand même très élevé. Là, on tombe dans quelque chose qui est déjà un peu plus abordable, 200€, et enfin, de toute façon, on en a parlé tout à l'heure, le public qu'il y a eu pour la DS et 3DS va clairement, pour moi, se retrouver dans cette Switch Lite.
Alors, moi, mon souci, si vous voulez, c'est que, certes, le prix est intéressant, très bien, mais déjà, j'ai un problème avec l'écran. C'est-à-dire que déjà, je trouve celui de la Switch de base pas bien grand. Il est pas assez grand, ou alors c'est des jeux qui sont pas adaptés pour, mais bon, moi je porte des lunettes en l'occurrence, mais j'ai du mal à lire sur la Switch. Ça m'est déjà arrivé de voir mon neveu et ma nièce y jouer, et y a certains jeux, le texte, enfin, je trouvais pas très lisible pour quelqu'un comme moi. Donc, le fait qu'il révise encore plus l'écran, ça me pose un petit souci quand même. Ensuite, pas de vibration, ça pour moi c'est un gros point négatif. Enfin, je trouve que les vibrations, c'est des sensations qui sont essentielles dans les jeux d'aujourd'hui, et si t'enlèves ça, enfin, c'est vraiment pas top. Alors, je demande pas d'avoir des vibrations HD, mais au moins avoir des vibrations de base, quoi. La question des Joy-Con, elle me paraît curieuse, parce que la plupart des jeux n'ont pas besoin d'être joués en mode Joy-Con, mais ça existe. C'est-à-dire qu'il y a des jeux où il faut que tu détaches les Joy-Con pour pouvoir y jouer. Donc, est-ce que ça veut dire que du coup, tous les jeux Nintendo ne pourront plus être joués en mode Joy-Con parce qu'il faut que ça soit forcément compatible avec la Switch Lite? Et puis surtout, enfin, quand je vois la liste de choses qui a été retirée de la console, je me dis, mais putain, une demi-heure de batterie en plus? Sérieux? C'en est un point où je me dis, attends, est-ce qu'ils ont pas mis une batterie moins puissante pour économiser des sous, quoi, tu vois? Parce que pour qu'on ait qu'une demi-heure en plus sur la batterie, putain, vu tous les trucs qui sont retirés, surtout qu'en plus, a priori, la console va être un peu améliorée, j'imagine, donc elle devrait consommer un peu moins. Voilà, quoi, c'est l'autonomie, c'est quand même pas top. Bon, après, évidemment, on va être honnête, hein, je suis pas le public cible. Cette console, très clairement, elle hurle la console qui a été conçue pour les gamins. Parce que tu vois la gueule de la console, déjà, c'est un tank, quoi. Enfin, c'est un truc qui a été conçu pour tomber par terre et être indemne, contrairement à la Switch.
Mais ça ressemble à la, comment elle s'appelait, la 3DS Lite ou je la sais 2DS, pas quoi, celle qui, la 2DS, Tank. Pardon, ouais, exactement, ouais.
Mais très clairement, on suit le schéma de la 3DS actuellement. C'est-à-dire que là, ils ont sorti le modèle pour enfants et je suis persuadé que d'ici un an, ils vont sortir le modèle pour
HD.
HD, voilà, pour joueurs qui veut un Zelda Breath of the Wild fluide, quoi, sur grand écran. Tout simplement. Pour moi, clairement, on est en train de suivre ce schéma-là. A priori, je serais plus intéressé par le modèle dont je suis persuadé qu'il sera annoncé dans un an, n'est-ce pas? Mais je pense, par contre, que si moi je ne suis pas public cible, très clairement, pour un gamin, ça peut être quelque chose d'intéressant. Voilà. ATH?
Ouais, bah moi, je sais pas trop quoi penser en fait de cette console. C'est-à-dire que je serais plus intéressé éventuellement par une Switch classique que celle-ci. Après, je trouve ça bien que le prix baisse, parce que c'est vrai que le ticket d'entrée, comme l'a dit Ben, était assez élevé, mais voilà, moi je suis pas du tout public cible par cette console. Déjà que la Switch, j'ai du mal à lui voir un intérêt, donc peut-être que si, comme vous le dites, il y aura une autre console qui soit annoncée, un modèle plus puissant de Nintendo Switch. Enfin, je m'en fous même que le modèle, si tu veux, soit plus puissant. Je voudrais juste un modèle qui ait vraiment une autonomie acceptable, qui soit, t'es pas obligé de recharger ta console souvent, quoi. Et surtout, bah la Switch, pour moi, son seul problème uniquement à l'heure actuelle, c'est le catalogue des sorties, c'est-à-dire que j'attends vraiment que les jeux sortent avant de prendre cette console. J'avais fait l'erreur déjà avec la Wii U de prendre la console qui restait au placard pendant je sais pas combien de temps. Du coup, cette console-là, pour le moment, m'intéresse pas du tout, mais bon, tant que j'ai pas les jeux qui sont arrivés, tant que j'ai pas de confirmation que ça va être stable sur la durée, avec un bon catalogue pour le futur, je prendrai pas cette console et celle-ci m'intéresse pas du tout. Et je trouve que son design d'ailleurs est hideux, jaune comme ça on dirait, vraiment un truc Fisher Price quoi. T'as vraiment l'impression d'avoir un truc pour gamin quoi, vraiment.
Bah comme tu... en même temps c'est fait pour.
Alors je vais aller revenir sur ce point, c'est que comme vous le savez je joue surtout à la Switch en mode portable.
Oui.
Et honnêtement si tu passes plus d'une heure en mode portable ou des temps en temps tu te lèves tu vois où t'es pas tout le temps calé, tu commences à la sentir dans les mains la Switch. Donc je me dis qu'un gamin de 10-12 ans ça va y faire du bien qu'elle soit moins lourde quand même la Switch parce que.
On rappelle hein, 398 grammes la Switch que tu as actuellement chez toi Ben et là 275 donc c'est vrai que pour un gamin ça fait une grosse différence je pense.
Bah ouais clairement je sais que moi des fois je me dis tu vois si genre si t'es pas bien assis ou quoi et que tu la soulèves plus d'un bras ou que d'un autre tu sens vite qu'il y a un truc voilà que ça pèse quand même c'est pas fatigant mais bon voilà tu sens que quand même t'as un truc qui est pas léger dans les mains et là je pense que ça bah de toute façon enfin voilà on l'a dit c'est pour les enfants c'est du mode portable. Et du coup, ils combattent le hack vu qu'il n'y a plus le Joy-Con que tu peux enlever.
Bah comme ça, les gamins, eux au moins, ils achèteront leur jeu. Voilà.
Exactement.
Par contre, du coup, je voulais te poser une question, Ben. Justement, toi qui as la Switch, est-ce que tu es d'accord avec cette idée reçue, parce que je t'avoue que moi, c'est une idée reçue que j'ai, hein, très clairement, que la Switch, c'est peut-être pas la console idéale à mettre entre les mains d'un gamin, surtout s'il la fout par terre.
Oui, comme tu laisserais pas un iPad dans les mains de ton gamin, ça, bon, qui est encore plus cher. Mais voilà, comme on l'a dit, la Switch actuelle, c'est un truc qui vaut 400€. Entre les mains d'un gamin, c'est quand même un objet que je considère comme de luxe. Parce que bon, tu vas pas sortir 400€ tous les mois parce que t'as caché la Switch. Alors aujourd'hui, j'ai pas entendu parler de gens qui ont cassé les écrans, tu vois, d'écrans fragiles.
De drame familial.
Ouais. Non, j'en connais pas dans mon entourage, j'en avais pas entendu parler. Peut-être parce que justement les gens font attention. Mais ouais, ça reste pour moi quand même un objet de luxe, comme l'était beaucoup moins une DS. Alors je me souviens plus du prix de la DS, etc. Mais pour le coup, ça faisait beaucoup plus console d'enfant. Déjà, tu pouvais la refermer. Donc l'écran, bah tu te dis que si ça tombe, ça il prendra peut-être moins cher parce que généralement bah, c'est ça qui
surtout
que casse,
la DS elle était
problème.
Massive hein,
la première DS en plus était quand même ouais elle rigolait pas quoi.
mais c'est facilement au milieu la première DS
oui ouais, c'est ouais. Entre les deux les deux clapets
des écrans ouais, ouais c'était voilà. Ouais. Moi j'avais pété la mienne comme ça hein, donc
bah on est dans le même cas hein, parce que la première DS elle était quand même assez sensible à ce niveau là c'est après quand ils ont sorti le deuxième modèle de DS qui était beaucoup plus solide vis-à-vis de ça et qui était beaucoup plus légère. Mais c'est vrai que, par exemple, pour une Switch, moi aussi qui ai pris en main la Switch de mes neveux, déjà, j'ai des neveux qui sont un peu turbulents. Ils se chamaillent beaucoup pour savoir qui joue en premier, qui joue en deuxième. Et c'est vrai que des fois, très souvent, j'ai failli voir la console voler pour pas grand-chose.
Avant, on jetait les manettes, ça risquait moins, quoi.
Ouais, mais en fait, là, comme tu veux, ils y jouent en mode portable avec les Joy-Con, tu vois, accrochés.
Oui, ils jouent avec les Joy-Con, mais pas sur la télé, en fait, sur la
c'est
Switch.
C'est ça, comme en mode tablette, quoi. Et du coup il joue comme ça et puis moi quand j'ai pris la console après entre les mains je me dis ouais quand même c'est pas le truc que j'aurais mis dans les mains de mes enfants en fait il y a quand même un risque si elle tombe ça se casse j'aurais préféré par exemple leur offrir celle-ci que celle qu'ils ont actuellement parce que celle qu'ils ont actuellement j'ai très peur pour elle quoi on va dire
mais disons que par contre ce que je trouve dommage c'est que bah on puisse plus la brancher à la télé quoi en fait même qui tu vois mettre un câble HDMI pour la brancher sur la télé
ouais, c'est alors ce que j'allais je dire même pas que... besoin d'un dock forcément mais
bah après c'est vrai que de ce que j'ai compris visiblement le dock apporte un supplément de puissance pour pouvoir faire tourner la machine sur télé. Moi, c'est ce que j'avais compris.
L'avantage, c'est qu'en plus, quand elle est sur le dock, elle se recharge, donc t'as plus cette problématique de devoir la charger, parce que si t'es juste branché à HDMI, il faut que tu la charges en même temps à côté, parce qu'elle consomme quand même pas mal, donc voilà, quand elle est dockée, tu te poses plus ce genre de questions.
C'est ça, mais même, tu sais, le côté, je pose la console, je détache les Joy-Con, à la limite, si je veux une manette, je me prends, tu sais, le support là pour poser les Joy-Con. Moi, je trouvais ça sexy parce que par exemple, tu sais que quand je vais voir mes parents dans la région où tu te trouves, mon cher Ben, j'ai quelques heures de train, n'est-ce pas ? Et du coup, quand t'es dans le train, c'est quand même vachement génial quoi d'avoir un truc comme ça. Tu le poses, tu te mets devant, tu joues tranquille comme si t'avais un écran, etc. Enfin, je trouve que c'est une console qui est vraiment pensée pour la portabilité et qui est très pratique pour les gens comme moi. Et du coup, avoir une simple console portable, bah je trouve ça moins sexy quoi.
Et surtout, ils reviennent sur leur argument marketing numéro 1. Enfin, c'est comme la 3DS et la 2DS qui perd son argument de vente parce que la 3DS à la base elle était vendue pour ça. Sauf qu'après, voilà, la 3DS, il y avait eu beaucoup d'histoires, surtout au moment de sa sortie, comme quoi ça pourrait faire mal aux yeux et tout. Donc les gens, ils étaient un peu
et
méfiants.
Et puis surtout, en vrai, tout le monde s'en foutait de la 3D.
Oui. Et là, tout le monde a désactivé.
Je trouve que la Switch, justement, son argument qui était fort, c'était jouer comme vous voulez.
Ouais, c'était l'hybride. Ouais.
Voilà, le côté hybride. Et je trouve que c'est un petit peu bête. Que justement que son argument principal bah, soit enlevé sur cette deuxième version. Pour le côté portable, c'est très cool parce que la 3DS, il y a plus de jeux qui sortent et tout. Et si les enfants veulent jouer au nouveau Pokémon, il leur faut la Switch. Mais bon, après, c'est le fait que le prix baisse déjà, ça, c'est un bon point.
Bah déjà, faut être honnête. Moi, je suis persuadé que ça va se vendre par camion en vrai. Hein.
Oui, il y a la sortie du nouveau Pokémon bientôt. C'est voilà, elle arrive au bon moment. Mais moi, clairement, pour revenir à ce que vous disiez, ça m'aurait pas choqué en fait que cette console ne s'appelle pas une Switch. Parce que, voilà, vous l'avez dit, elle n'a plus rien de la Switch originale. T'as pas les Joy-Con, tu peux pas jouer à plusieurs, du coup, sur cette console. C'est-à-dire que tu peux même pas dire, t'as un pote qui a juste ses Joy-Con, il peut pas venir dans une partie avec toi, a priori. Alors ça, ils en ont pas parlé, mais je pense pas que ça soit faisable. De toute façon, tu peux même pas, en fait, poser la console à mode tablette, comme disait ATH, y a plus l'espèce de petit clapet derrière pour le faire. Donc voilà, ça aurait très bien pu être comme, voilà, à l'époque de la DS, qui est sortie un peu après, entre la Wii et la Wii U, je pense. Qu'il y avait un autre nom. En fait, là, ça aurait très bien pu avoir un autre nom. Alors là, ils surfent sur le succès de la Switch en faisant ça, clairement. Mais ça m'aurait pas choqué, en fait, qu'elle ait un autre nom parce que, ben, elle perd toutes les fonctionnalités de base qui ont intéressé, en fait, sur la Switch.
Ouais, mais d'un autre côté, si tu mets pas le même nom, ouais. Ça pose un souci parce que c'est le même catalogue.
C'est ouais, ça. Ouais, bien sûr. Par contre, non, mais je comprends qu'il l'ait fait. Mais voilà, ça aurait pas été choquant dans l'idée parce que c'est une console qui a presque plus rien à voir avec l'original.
Ouais, mais comme tu le dis, le plus important, c'est le catalogue.
Ouais, bah par contre, oui, c'est les mêmes jeux qui se retrouvent dessus, etc. Ouais, bien
c'est
sûr.
C'est impossible qu'ils changent de nom.
Oui, oui, non, mais bien sûr. Ouais.
Moi, je propose de l'appeler la No Switch.
Ah, mais là, du coup, ça va faire comme la Wii U, les gens vont pas comprendre, et tu vois, ils vont se dire, putain, mais c'est quoi ça?
Ah, parce que
c'est...
Switch Lite, est-ce qu'ils vont comprendre? Ça aussi, c'est une question que je me pose, hein.
Oui, oui, je pense que oui, parce que, en général, tu vois, Lite, les gens, ils confondent avec Coca Lite, tu vois, ils disent, oh, ok, c'est pareil.
Alors que c'est alléger, c'est ça. Il y a trois fois moins de fonctionnalité, c'est alléger.
Ce mot-là, tu vois, c'est un mot assez fort, c'est par exemple, comme PS4 Pro, où tu comprends vraiment que c'est la même version, mais upgradée. Et ouais. Ils ont fait le coup déjà avec la DS, qui avait la DS et la DS Lite.
Oui, mais entre la DS et la DS Lite, t'avais pas cet écart de fonctionnalité qu'il y a entre la Switch et la Switch Lite.
De toute façon, côté Switch, ne serait-ce que son nom, ça te dit tout. C'est que tu peux jouer en mode hybride, ce qui n'est plus disponible avec cette console-là.
Ouais, bah c'est ça le truc moi qui me choque le plus en fait. C'est que au départ, quand ça avait été annoncé, j'avais pas fait attention spécifiquement à tout ce qui avait été annoncé, mais je pensais que c'était une console avec les Joy-Con intégrés en fait, mais que tu pouvais la basculer sur un dock.
Ouais, que tu pouvais quand même la docker.
Ouais, et c'est là que je me suis rendu compte que bah non, on pouvait pas la docker. Donc j'ai fait d'accord, mais comme l'a dit Tyran, pourquoi ne pas avoir mis un port HDMI? C'était déjà le cas par exemple sur la PS Vita. Enfin, c'est pas une bonne console parce qu'elle a bidé totalement, mais du coup, on pouvait quand même le faire, il me semble, sur la PS Vita, mettre un accessoire.
D'ailleurs, c'est Sony qui doit avoir les boules là en ce moment.
C'est le même format qu'une PS Vita, quoi.
Enfin, c'est le même concept, quoi, entre guillemets. Bon,
oui,
il y en a un
oui.
qui est plus marketingement parlant, c'est sûr que la PS Vita c'était plus high tech, quoi. Mais en vrai, c'est le même type de console, c'est le même type de machine. Et Nintendo, ça va se vendre parce que Nintendo.
Mais aussi avec la Vita, je suis désolé, mais Sony, ils avaient rien fait du tout, quoi. Ils auraient pu avoir la meilleure console, la mettre en avant en disant, ok, nous, on n'arrive pas à suivre parce que les jeux, ils coûtent trop cher, et du coup, bah, on va mettre plus en avant les indés, on va essayer de promouvoir un vrai catalogue dessus. Mais là, le problème, c'est qu'avec Sony, ils ont pas essayé, en fait.
Sony, ils ont juste voulu surfer sur le nom PlayStation et sans se casser le cul, et puis ça a pas marché, quoi.
Et les jeux que t'avais sur la PS Vita à l'époque, c'était les jeux que t'avais sur console de salon, mais en moins bien. Et les quelques jeux qui étaient sortis sur sur PS Vita. Bah c'était des jeux que tu retrouvais sur PS3, PS4, PC et tout ça, c'était des jeux qui avaient déjà dans le catalogue qui étaient partout, mais je pense que Sony, ils auraient pu faire un très bon move avec cette console en disant OK, ça va pas être une console techniquement avec les meilleurs jeux au point et tout, mais par contre vous l'amenez où vous voulez et puis vous pouvez avoir les derniers jeux qui sortent aujourd'hui. Et je pense que même
puis surtout regardez tous ces studios qui vont sortir des jeux dessus, parce que c'était ça. Enfin moi je suis désolé, le plus gros problème de la PS Vita, c'est son putain de catalogue, quoi.
Bah oui,
Dieu sait que j'aime cette console, putain, mais
moi aussi,
j'en ai encore une, je rappelle quand même. C'est un peu comme la Wii U, elle prend un peu la poussière, mais voilà. Cette console n'a pas eu le soutien qu'elle aurait dû avoir. Alors par contre, je reconnais une chose à Sony, c'est qu'ils ont maintenu la respiration artificielle pendant un long moment, mais que malheureusement ils ont pas mis le paquet qu'ils auraient dû mettre dès le début, quoi.
Mais tu sais ce qu'ils auraient dû faire en fait? Vous vous rappelez quand Microsoft proposait les Summer Game of Arcade? Ils proposaient un catalogue vraiment de jeux indépendants qu'ils mettaient en avant. Ils auraient pu le faire. Parce qu'à l'époque, quand Microsoft, ils l'avaient fait avec la 360, mais c'était une idée de génie. J'avais découvert des jeux comme Braid, comme Limbo, comme Explosion Man et tout. Et en plus, ça, c'était vraiment mis en avant sur le store. C'est-à-dire que tu allumais la console, t'avais pas besoin d'aller dans le store ou quoi. Microsoft te mettait vraiment en avant cet événement-là. Et c'est ça qui a lancé vraiment le jeu indépendant sur console. Très clairement, les AAA, elles ne pouvaient pas suivre. Mais là, Nintendo Switch, bah, il y a les Mario, il y a Zelda, il y a les licences. Et puis, tout à l'heure, Ben a dit, il y a le nouveau prochain Pokémon qui va arriver. Mais il y a quand même une licence qui va se vendre par palette entière, c'est Animal Crossing.
Oh mon dieu.
Oui, puis du public enfant, là, en plus, ça va être la folie, ouais.
Ouais, et puis même, je connais des jeunes femmes qui ont entre 20 et 30 ans qui jouent à Animal Crossing.
Oui, bien sûr.
C'est des jeux, tu vois, c'est un peu comme les Sims à l'époque. Les gonzesses, ils jouaient pas aux jeux vidéo et tout, elles jouaient aux Sims et tu leur disais, ouais, mais tu joues aux jeux vidéo là? Elles disaient, ah non, je joue pas aux jeux vidéo, je joue aux Sims, tu vois. Animal Crossing, c'est pareil. Ah non, je joue pas aux jeux vidéo, je joue à Animal Crossing, tu vois. C'est...
Ma sœur a joué à Animal Crossing, quoi, c'est vous dire.
Donc voilà, donc je pense que, bah, enfin, comme on l'avait dit auparavant, cette console a un bel avenir devant. Après, faudra voir en fait vraiment ce modèle-là par rapport aux ventes de Switch classique, lequel va être plus vendu en fait.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que bon, ça y est, Nintendo a réussi. Ils ont enfin unifié leur catalogue. Ils ont une console de salon, une console portable. Ils vont avoir les moyens de focaliser leur attention sur un support. Et ça, c'est vraiment ce dont ils avaient besoin pour pouvoir suivre derrière, quoi.
Ça, ça aurait pu être un piège, tu vois. Que justement, ils se lancent dans plusieurs projets en essayant de dire, ouais, la 3DS a bien marché, bah du coup, on va sortir, je sais pas moi, une 4DS plus la Switch. Maintenant, vu que les jeux sont de plus en plus longs à développer et coûtent de plus en plus cher, peut-être qu'ils auraient pas pu suivre. Le gros reproche qui a été fait avec la Wii U, c'est pas que la console était nulle à chier et tout ça, c'était son manque de catalogue. Et c'est toujours ça qui pose problème, c'est le manque de catalogue. Mais maintenant, je pense que vraiment, la Nintendo, ils ont un boulevard, on va avoir des jeux optimisés pour la console. et ils vont pouvoir se concentrer là-dessus. Après, voilà, ça veut pas dire qu'ils vont plus jamais sortir de consoles portables et de consoles de salon. Pour le moment, en tout cas, c'est la stratégie qui va être adoptée, et ça, ça va être intéressant aussi de voir ce qu'ils vont pouvoir tirer des tripes de la machine.
Ben, quelque chose à ajouter ?
Je vais quand même rajouter un petit truc, c'est que je crois qu'on n'a pas dit annoncer la date de sortie.
C'est dire à quel point on s'en fout.
Voilà. Elle est prévue pour le 20 septembre, voilà.
Voilà.
Juste après la rentrée scolaire, un peu avant Noël, nickel quoi.
Je pense que c'est parfaitement timé.
Je pense aussi côté Nintendo, je pense qu'ils ont réfléchi un peu à la question.
Et pour Noël, une petite baisse de prix de la Switch classique, tu vois, comme ça, tac tac, on reste dans le bon
move. Ça, j'y compterais pas trop à ta place, ça,
parce que Pokémon, il sort fin d'année aussi. Il sort quoi, octobre ou novembre, quelque chose comme ça, ouais.
Un petit bundle alors, tu vois, Pokémon, Switch, c'est parfait, tu vois.
Bon, messieurs. On s'arrête pour cette semaine ?
Ouais. Ouais.
Rendez-vous la semaine prochaine. Attention, ce sera le dernier podcast de la saison. Ce sera a priori en direct. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.
Salut à tous.
Salut à tous.